Il y a de nombreuses manières de présenter la foi catholique et les synthèses théologiques qui essayent de la formuler au mieux. Saint Thomas d'Aquin, quand il présente la somme de théologie, il commence par dire qu'elle est faite pour les débutants. Pourtant, quand on lit la somme de théologie, on voit que le discours est extrêmement précis, intellectuel, scientifique. On devrait se dire, en la lisant, mais elle est faite pour les professionnels, pas pour les débutants. Eh bien justement, non. Le sommet de la théologie, c'est Jésus qui le définit dans son évangile, quand il dit « Bienheureux es-tu, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Ça veut dire en fait que le sommet de la théologie, c'est ce qui donne la compréhension la plus profonde du mystère de Dieu et de ses volontés sur l'homme. Et le sommet de la théologie, quand on regarde Jésus en train de l'appliquer, eh bien ça passe par des contes. Il exprime les choses à travers des histoires qui sont appelées des paraboles parce que quelquefois elles sont complètement symboliques, elles sont inventées. Pourquoi est-ce le sommet de la théologie? Eh bien parce que, en se servant de l'imaginaire, Jésus adapte le langage de la manière la plus parfaite à tous les hommes. En effet, dit saint Thomas d'Aquin, l'être humain comprend en se servant de ses sens, mais aussi de son imaginaire, dans lequel son intelligence vient chercher ce qui est signifié. Par nature, l'homme comprend par le sensible. Saint Thomas a toute une théologie, une philosophie qu'il prend à Aristote, où il développe l'existence dans l'intelligence humaine d'un intellect agent qui est justement capable d'abstraire dans les choses sensibles l'intelligibilité. Eh bien, puisque la grâce suit toujours la nature, de la même façon, quand Dieu veut exprimer en langage humain les vérités surnaturelles, eh bien, il le fait au sommet en se servant de langage simple. C'est pourquoi la théologie scientifique, elle est très importante, mais elle est faite pour les intellectuels afin que leur intelligence soit parfaitement précise et en vue qu'ils comprennent mieux le contenu révélé dans l'Écriture sainte à travers des histoires. Pour ma part, avant de présenter sous forme de conte cette théologie catholique qui n'est pas pour tout son contenu la foi, c'est une synthèse théologique, un essai de synthèse à partir de la fidélité au dogme. Et bien avant de présenter la théologie catholique sous forme de conte adapté à tous, j'ai commencé par écrire un énorme livre que personne ne lit, qui fait plus de 700 pages, qui est en théologie scientifique, c'est-à-dire dans le style de saint Thomas d'Aquin, et qui précise toutes ces choses-là de manière extrêmement intellectuelle, précise. Ensuite, dans un deuxième temps, après avoir écrit cette chose qui a servi de thèse de théologie, eh bien j'ai écrit un deuxième livre avec le même contenu, mais de manière plus vulgarisée. Par exemple, « L'heure de la mort », tout est raconté dans ce livre à travers l'histoire d'un soldat allemand de la Seconde Guerre mondiale qui a suivi Hitler, qui meurt, et que peut-être je raconterai dans un des contes qui vont suivre. Eh bien, la chose est déjà beaucoup plus compréhensible pour tous et donc sans doute plus théologique. Et enfin, dans un troisième temps, sur la vie du père Paul Préau, qui est recteur du sanctuaire de Montligion, chargé des âmes du purgatoire, j'ai eu l'idée d'écrire une série de contes qui mettent en scène à peu près toutes les possibilités, tous les cas particuliers, tout ce qui peut arriver à quelqu'un qui passe de ce monde à l'autre. Un bébé mort, sans baptême. Un adulte assez fier et assez orgueilleux. Une personne d'une autre religion, etc., etc. À travers ces 24 contes qui sont la plupart du temps imaginaires, mais qui sont parfois écrits à partir de choses réelles que j'ai pu expérimenter dans mon entourage, dans ma vie. Eh bien, ces 24 contes visent à cela, et je pense que finalement, en étant un peu commentés, ils sont sans doute un sommet de la théologie. C'est une forme qui rejoint la manière par laquelle Jésus enseignait. Mais avant d'entrer dans la lecture de ces contes, il est indispensable de lire l'introduction qui est en face de cette vidéo, ou alors d'écouter ce qui va suivre et qui résume ce qui est présupposé à toutes ces histoires. Si on n'a pas bien en tête les présupposés théologiques concernant la Trinité qui a tout créé, concernant le but de cette vie, la vision béatifique, concernant cette vie elle-même et les raisons de la souffrance, les différents purgatoires par lesquels nous passons, eh bien les contes risquent un petit peu de tomber à plat, c'est-à-dire de ne pas être resitués dans l'ensemble de la révélation. Donc c'est ce que je vais faire là, en quelques minutes, essayer de rappeler pour tous ce que nous faisons sur Terre et ce qui se passe dans l'autre monde. Au commencement de tout, et qui explique tout, c'est l'alpha. Il y a un être infini, éternel, qui est parfait, qui n'a besoin de personne, parce qu'il est, par sa propre vie intérieure, totalement bienheureux. Sa vie intérieure, éternelle, parce qu'il est un esprit, il s'appelle Dieu, c'est notre langage humain qui le dit, sa vie éternelle consiste en deux choses. D'abord, il contemple, dans un jaillissement de lumière magnifique, la seule chose qui existe, c'est-à-dire lui-même. Et cette contemplation, parce que Dieu est infini, elle est absolument parfaite. Ce qui veut dire que Dieu, l'unique, quand il se contemple lui-même, se connaît parfaitement. Ce qui veut dire que sa connaissance de lui-même, son verbe, est exactement semblable à lui-même. Pour révéler cela, l'Écriture appelle Dieu le Père, et sa connaissance, son verbe, ça c'est le nom propre, le nom théologique qu'on voit au début de l'Évangile de Saint Jean, eh bien il l'appelle le Fils. Là encore, il s'adapte en langage humain parce qu'on comprend bien sur Terre ce que c'est qu'un Père, ce que c'est qu'un Fils. Dieu aurait très bien pu dire la Mère et la Fille, parce que, en fait, en Dieu, il y a des qualités masculines, des qualités féminines. Il a tout créé plus tard, et donc il est au-delà de ces catégories-là. Mais il est bien obligé de choisir une métaphore particulière. Le Père et le Fils, autrement dit Dieu, et sa propre connaissance de lui-même, s'aiment infiniment. Là, il ne s'agit plus seulement de connaissance. Il s'agit d'une tension réciproque l'un vers l'autre, comme l'amour. Et cet amour, il est absolu, il est parfait, il est exactement identique au Père et au Fils, puisqu'il est total. Eh bien, on l'appelle, en théologie, le Saint-Esprit. Mais le nom plus précis, c'est amour. Et donc, ce Dieu unique, sa vie intérieure était jaillissement de puissance, le Père, de lumière, le Fils, d'amour, le Saint-Esprit. Non pas que je veuille dire que le Père n'est que puissance, le Fils que lumière, le Saint-Esprit qu'amour. Non, ils sont exactement identiques. Ils sont exactement semblables et ils ne sont pas, il est exactement un seul Dieu. Pour signifier cela, l'une des plus belles icônes qui existent dans la chrétienté vient des orthodoxes. C'est la Trinité de Roublev, où on voit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit peuvent être n'importe lequel des trois personnages. Ils sont exactement semblables, et on ne sait pas si ce sont des hommes ou des femmes. C'est cette vie trinitaire qui explique tout. Si on ne la contemple pas, on ne peut pas comprendre le reste du mystère. En fait, quand Jésus s'est fait homme et qu'il a révélé exactement quel était le cœur de Dieu, il a voulu le faire en mourant sur la croix. Et saint Jean raconte qu'il était présent à la croix et qu'il a vu, de ses yeux vus, il insiste, il a vu qu'au moment où le soldat a percé son côté, il en est sorti du sang et de l'eau. C'est ici représenté sur cette icône peinte par sainte Faustine sous la forme d'un rayon blanc et d'un rayon rouge. Il s'agit du Christ miséricordieux. On a là le cœur du mystère. Et ce n'est pas seulement, justement, théologique, c'est réellement le cœur de Dieu qui est percé et qui révèle donc le cœur du mystère. Il sort du cœur du Christ, donc du Verbe fait chair, deux choses, du sang et de l'eau. L'eau, c'est le symbole de l'humilité. À la messe d'ailleurs, quand le prêtre célèbre, il verse une petite goutte d'eau dans le vin, cette eau signifiant notre petit apport à nous, les hommes, qui ne sommes rien par rapport à Dieu. Le sang, c'est le symbole de l'amour, parce qu'on verse son sang par amour. Eh bien, ce verset-là de l'Évangile selon saint Jean révèle exactement le cœur de la Trinité qui explique tout. En effet, dans la vie trinitaire, révélée par Jésus-Christ, il y a deux secrets et non pas un. Le premier secret, ça, tout le monde, tous ceux qui sont chrétiens en sont conscients. Il n'y a aucun problème, l'Église l'a toujours, enfin les prêtres l'ont toujours enseigné à la messe dans leur prédication, puisque c'est évident, ça transparaît dans l'Évangile. Il s'agit de l'amour de Dieu. Donc la vie trinitaire, elle est amour. Un amour complet, total, à tel point que personne ne peut voir Dieu face à face s'il ne l'aime pas. Voilà pourquoi, parce que Dieu est amour dans sa vie trinitaire, amour d'amitié, amour réciproque entre trois. Voilà pourquoi Jésus dit que, à travers saint Paul, il dit que le sacrement du mariage est un grand sacrement. Parce qu'il révèle la relation de l'âme avec Dieu. On ne peut pas voir Dieu un jour si on ne l'épouse pas. C'est un véritable amour d'amitié. Évidemment, si Dieu n'était qu'amour d'amitié et si la relation à lui n'était que mariage, eh bien, on serait peut-être déjà au ciel. On n'expliquerait pas pourquoi il est nécessaire de passer par la terre avec toutes les souffrances qu'on y subit. Eh bien, c'est qu'il y a un deuxième mystère. Un mystère qui est très peu enseigné, même s'il l'a été par Maître Eckhart, par des grands théologiens actuels aussi. Il s'agit de l'humilité de Dieu. Pourquoi ça a été très peu enseigné? Parce que saint Thomas d'Aquin a contesté que Dieu puisse être dans sa vie trinité humble. L'humilité, ça implique une sorte d'abaissement de soi. Le terme exact, d'ailleurs, c'est pas « humilité ». Le terme exact qu'emploient les Grecs, c'était « kénose ». Kénose, ça veut dire un abaissement non seulement au niveau où on est. Par exemple, le père pourrait dire au fils « tu es exactement semblable à moi, donc on n'a pas besoin de s'abaisser l'un devant l'autre, on est exactement identique ». Non, il s'agit d'un abaissement au-dessous de ce qu'on est réellement. Et ça, ça a été nié par beaucoup de théologiens parce que ça semblait mettre en Dieu une limite. En réalité, quand on lit bien les grands théologiens qui en ont parlé, il n'y a pas de limite en Dieu. Cette kénose des personnes entre elles n'est pas limitée. Le Père n'existe pas, en fait, s'il n'y a pas un Fils. On ne peut pas dire qu'on est un Père si on n'a pas soi-même un Fils. Réciproquement, un fils n'existe pas s'il n'a pas un père. Eh bien, appliqué à Dieu, dont la vie trinitaire est infinie, le père est identique à sa paternité, Et donc, il n'existe qu'en donnant l'être au Fils. Et le Fils, qui est identique à sa filiation, n'existe qu'en recevant l'être du Père, auquel il donne aussi l'être. Eh bien, c'est cela la kénose. Elle est vie, elle n'est pas infériorité. Le Père éternellement dit au Fils, « Tu comptes tout seul. » Et c'est ce qui donne l'être au Fils. Et le Fils dit au Père, « Tu comptes seul. » Et c'est ce qui donne l'être au Père. Ils sont donc infiniment humbles, kénose. À tel point, avec une telle puissance, ce ne sont pas des créatures, c'est l'être incréé, que personne ne peut voir Dieu face à face sans lui ressembler sous cet aspect-là. En imaginant un être humain quelconque qui prétendrait voir Dieu, en ayant en lui un petit peu de fierté, de certitude qu'il est quelqu'un de bien, eh bien, il ne pourrait pas voir Dieu. Il en serait comme arraché, parce que l'infinie humilité de la Trinité viendrait comme faire éclater cette espèce de fierté pourtant légitime qu'il aurait. La Bible, pour signifier cela, dit, dans le livre de la Genèse, « Nul ne peut me voir et vivre ». Ce qui signifie, puisque la Bible parle pas d'abord de choses spirituelles, ce qui signifie « Nul ne peut voir Dieu et vivre, être quelqu'un au plan spirituel ». On ne peut pas voir Dieu sans, d'abord, mourir totalement à soi-même. Et cela, c'est indispensable. Dieu ne peut pas le changer. Il faudrait qu'il change radicalement sa vie trinitaire. Et bien justement, si on veut comprendre ce qu'on fait sur terre, c'est simple à partir de là. Nous sommes tout simplement en train d'être formés par Dieu pour avoir un cœur qui corresponde à la vision béatifique, un cœur tout humble. Au début de la création de l'homme et de la femme, Dieu avait prévu de le faire sans souffrance. Et c'était possible, il avait simplement demandé à Adam et Ève d'obéir. Il leur avait donné sa présence, c'était très tendre, il était sans arrêt à côté d'eux. Et il n'avait rien d'autre à faire que mettre au monde des enfants, les élever et accepter que l'obéissance, l'humilité, l'amour étaient premiers dans leur vie. Ils ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui veut dire choisir eux-mêmes autre chose comme bien et comme mal. C'est une épreuve spirituelle terrible, car Adam et Ève sont des êtres libres. Et donc, ils étaient tentés de se dire « Mais c'est un petit peu enfantin ce qui nous est demandé par Dieu. » S'ils avaient accepté de se soumettre humblement à cette façon d'être, ils auraient monté au ciel, l'Assomption, à la fin de leur vie, sans passer par la mort, et ils auraient vu Dieu face à face. Mais avant cela, Dieu voulut quand même que leur soit proposée une autre voie, ce qui est normal. Il avait créé Adam et Ève comme des êtres libres, parfaitement maîtres d'eux et parfaitement lucides de ce qui était en jeu. Ils savaient qu'ils n'étaient pas obligés d'obéir, mais s'ils n'obéissaient pas, eh bien, ils mourraient physiquement. Le démon, l'ange révolté, Lucifer, avait lui-même, plusieurs milliards d'années avant, cédé sur cette question de l'obéissance, de l'humilité et de l'amour. Quand Dieu lui avait révélé qu'il ne pouvait pas le voir face à face sans devenir tout humble et tout amour, il s'était révolté parce qu'il avait compris instantanément que l'homme et la femme qui seraient créés dans quelques milliards d'années étaient bien plus armés pour l'humilité et l'amour. Et donc il s'était dit devenir gardien des hommes et des femmes, les aider à accéder à la vision béatifique, ça voulait dire leur donner la première place. Et il avait dit à Dieu, je ne servirai pas, pas question. La vision béatifique, je la mérite parce que je suis un être intelligent. Tu es esprit, Dieu, je suis esprit, je suis fait pour te voir, c'est naturel. Un esprit désire connaître la cause première de tout. Mais l'histoire de devenir tout humble et tout amour, mais c'est pas acceptable. Tu es en train de t'abaisser au-dessous de toi-même. Je dois défendre ton honneur et donc je ne servirai pas. Et je te prouverai un jour que tu as raison. » Dieu accepta la révolte de Lucifer. Mais Lucifer était un être parfaitement lucide, un pur esprit. Et donc il ne revint jamais en arrière. Non pas qu'il ne puisse pas, mais parce que, étant parfaitement libre, il n'avait aucun motif pour changer d'idée. Il savait parfaitement que Dieu ne pourrait pas se changer. Et pourtant, à cause de son orgueil, il choisit de se révolter. Saint Michel, un petit archange des ordres inférieurs, eut beau jeu de révéler la vérité. C'est ce qu'on raconte quand on représente le fameux combat de Saint Michel contre Lucifer, en représentant un jeune homme qui tue un dragon avec une épée. Il lui dit simplement: « Tu prétends que tu te révoltes contre Dieu pour défendre l'honneur de Dieu que tu prétends aimer. En réalité, c'est ta place de premier que tu ne veux pas perdre. Qui est comme Dieu ?» Michael en hébreu. Qui est comme Dieu pour que tu prétendes être plus intelligent que lui ? Lucifer reçut donc l'autorisation d'approcher Adam et Ève, qui étaient parfaitement armés pour l'affronter. Ils avaient la sagesse absolument dans leur âme. Ils n'étaient pas des hommes singes. Ça, l'Église l'a toujours dit. Le corps de l'homme, peut-être qu'il vient de l'évolution, peu importe, mais leur âme est créée par Dieu et dès le départ, elle avait reçu la sagesse. Pas la science, pas la technique, on le voit bien dans la paléontologie. Les premiers descendants des hommes ne savent rien. Mais la sagesse, ça veut dire la réponse aux questions « Qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? Où est-ce que je vais après cette vie ?» puisqu'il n'y avait pas de mort à l'époque. Eh bien, Ève et Adam, tout à fait librement, considérèrent la proposition de Lucifer, la trouvèrent très intéressante, devenir adulte, devenir comme des dieux. Et là où ils trahirent Dieu, c'est quand ils écoutèrent Lucifer qui leur disait « Pas du tout, Dieu veut juste vous dominer, c'est pour ça qu'il veut que vous soyez humbles. » Ils savaient très bien, Adam et Ève, Dieu leur avait expliqué que ce n'était pas pour les dominer, cette obéissance. C'était parce que c'était nécessaire. Nul ne peut voir Dieu sans cette espèce de kénose intérieure. Eh bien, Adam et Ève suivirent Lucifer. Ils se révoltèrent contre Dieu. Lucifer triomphait ce jour-là. Et en fait, Lucifer, étant orgueilleux, était devenu la personne qui se fait le plus piéger par l'humilité qu'on puisse imaginer dans l'univers. C'est qu'en fait, en le faisant tomber Adam et Ève, ils permirent la vie actuelle, qui humainement est terrible par rapport au paradis terrestre que vivaient Adam et Ève, où il n'y avait pas de souffrance, où les animaux n'avaient pas peur, bien qu'ils se mangeaient entre eux, on le voit bien. Ce monde actuel, où on vit, est un monde de souffrance, on meurt tôt ou tard, mais il a la propriété de pouvoir façonner dans le cœur des hommes une humilité, une kénose bien plus forte que tout ce qui aurait pu exister s'il n'y avait pas eu finalement ce péché originel. Et c'est pourquoi l'Église chante le jour de Pâques, quand elle contemple le Messie, Dieu fait homme, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, et qui raconte donc quelle est la vie de chacun. Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur, un tel salut. Donc, que faisons-nous sur terre? Et quelles sont les étapes, cette espèce d'échelle de Jacob, que Jacob vit en rêve dans le livre de la Genèse, quelles sont les étapes par lesquelles Dieu va s'efforcer de nous rendre tout humble, kénose et tout amour? Eh bien, ce que je vais raconter maintenant n'est pas entièrement la foi catholique. La foi catholique, dans son dogme, ne va pas jusque dans des détails comme ça. Mais c'est entièrement conforme à la foi catholique. Ça veut dire que c'est une synthèse théologique qui tient compte de tous les dogmes de l'Église, par son magistère, c'est-à-dire par les papes, mais aussi de ce qu'ont raconté les grands docteurs, qui parfois se contredisent, donc on fait le tri. Mais en regardant la totalité des grands docteurs, on s'aperçoit qu'en fait, l'échelle de Jacob, par laquelle Dieu nous emmène au paradis, comporte 6 barreaux, 6 échelons, par lesquels on n'est pas obligé de passer tous, mais qui, au bout du compte, si on entre dans la vision béatifique qu'on appelle le 7e ciel, eh bien, nous aurons permis d'acquérir un cœur tout humble et tout amour, un cœur comme le Christ, d'où il sort de l'eau et du sang. Un cœur brisé, en fait. Le premier degré, c'est la vie terrestre. C'est l'un des pires purgatoires, des plus douloureux, en ce sens que nous ne savons pas si tout ce que racontent les théologiens catholiques est vrai ou faux. Il y a quelques preuves, les signes, donc des coïncidences frappantes qui arrivent parfois dans nos vies. Les miracles, comme ce qui se passe à Lourdes, qui là sont vérifiables. On a les radios avant et après, par exemple, de Jeanne Fretel, dont l'intestin a repoussé comme l'éclair dans les années 50. Et l'Esprit Saint. Ça veut dire que parfois, et pas tout le monde, pas tout de suite en tout cas, on ressent ou on comprend intimement cette présence de Dieu au fond de l'âme. Et là, on se met à y croire. La technique première de Dieu en cette vie terrestre, c'est qu'il se cache. Il se cache le temps de cette vie. Ce n'est pas universel, il y a des apparitions de temps en temps, par exemple Bernadette à Lourdes, à travers la Sainte Vierge, donc un saint du ciel, mais habituellement, il se cache. Et la vie est tout organisée pour que normalement, si on vit un certain temps, si on ne meurt pas en pleine gloire, mettons vers l'âge de 30 ans, sans avoir rien connu, eh bien on sort de cette vie plus humble que quand on est jeune et qu'on a la vie devant soi. En effet, il y a des grands moments de bonheur, en tout cas pour la plupart d'entre nous, pas pour tous. Mais il y a aussi des grands moments d'angoisse, de malheur, que la Bible décrit dans l'Apocalypse sous forme de 7 mystères scellés, qui en fait sont le résumé de tous les fléaux que Dieu permet parce qu'il pourrait les empêcher, en vue de nous façonner un cœur tout humble. Ces fléaux, il ne faut pas les rechercher du tout. Il faut au contraire tout faire pour les détruire, tout faire ce qui est possible, sauf le suicide, des choses comme cela. Mais quoi qu'on fasse, on dirait que la terre est organisée pour qu'ils arrivent. Prenons par exemple le cheval verdâtre de l'Apocalypse. Quand Dieu appelle le cheval verdâtre sur la terre, ça signifie la famine. Eh bien, dans les pays ou dans les époques où les gens étaient très pauvres, il y avait souvent la famine matérielle. Mais là, les gens se tournaient vers Dieu. Et dans les pays ou les époques où les gens sont très riches matériellement, ben le fléau est tout de même là. C'est ce qu'on voit en Europe, parce qu'il arrive la famine spirituelle, avec son fruit premier, l'angoisse des jeunes, qui se demandent ce qu'ils font sur terre, et qui est sans doute une souffrance plus terrible peut-être que la famine matérielle. Parce que la famine matérielle, quand on a l'espérance qu'il y a une vie dans l'autre monde, est peut-être moins douloureuse, c'est une douleur physique, que la famine spirituelle quand on a un mur devant soi qu'il n'y a rien. Autre fléau que raconte l'Apocalypse, le cheval rouge, la guerre. Parfois c'est la guerre matérielle, et parfois c'est la guerre spirituelle, ou la guerre familiale, dans le divorce, fruit souvent de notre propre égoïsme. En tout cas, quand on constate, quand on regarde un petit peu comment fonctionne ce monde, on s'aperçoit qu'on n'arrive jamais ou quasiment jamais à le transformer en un paradis sur terre. On a essayé. De l'Église, il y a même eu une tentative dans les Actes des Apôtres, une tentative de communisme où les gens partageaient tous leurs biens, les donnaient aux autres. Eh bien, même l'Église n'a pas pu réussir. Très vite, un homme, Ananie, est arrivé en faisant croire qu'il donnait tous ses biens à tout le monde, alors qu'il en avait caché la moitié, au cas où. Créer un paradis sur terre, raconte le catéchisme de l'Église catholique, numéro 676, c'est la pire des illusions. C'est presque l'antéchrist. On doit tendre à rendre heureux notre prochain, mais quoi qu'on fasse, il y aura des choses qui ne marchent pas. Ça ne marche pas, et quand on a essayé, comme dans le communisme et les diverses idéologies utopiques du bonheur, on a joué à l'ange, eh bien on a fait le diable, on a fait des millions de morts. L'explication chrétienne de ces fléaux est un véritable scandale, dit saint Paul. C'est choquant, et beaucoup de gens, même des chrétiens, le refusent, parce que c'est un scandale pour le monde. Saint Paul dit, c'est une chose voulu par le Père, et pas pour nous écraser, pour nous sauver. Nous, nous n'avons pas à nous occuper de ce que veut le Père. Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer d'aider notre prochain quand il souffre. Mais l'explication théologique, elle est là, à savoir que le Père permet et parfois veut certaines choses qui nous frappent en vue d'un bonheur plus grand, qui concerne l'éternité. Alors cette théologie est très rejetée actuellement par beaucoup de catholiques. On considère que la croix rédemptrice est une erreur du passé. En réalité, elle est le cœur de la théologie catholique et l'Église ne peut pas la changer, comme je l'ai indiqué. Ce premier purgatoire ne dure qu'un temps. Il faut s'efforcer, même si parfois on a des envies de le quitter avant terme, de rester jusqu'au bout, parce qu'il est très efficace. De Dieu, cet attachement qu'on a à la terre, qu'on soit croyant ou non, ont vraiment la possibilité de façonner dans notre cœur des grands désirs, des désirs d'un salut quand on n'est pas croyant, et quand on est croyant, des offrandes de sa vie, de son amour, jusqu'à des degrés incroyables. Ils ne durent pas toujours, et juste à l'heure de la mort, à la 11e heure de cette vie, arrive une autre étape, une étape que saint Paul appelle le troisième ciel et qu'il a vécu lui-même quand il s'est converti sur le chemin de Damas. Le Christ apparaît dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Cette chose-là fait partie du credo. Il reviendra dans sa gloire accompagné des saints et des anges pour juger les vivants et les morts. Et Jésus ne cesse de l'annoncer dans l'Écriture. Même si souvent on croit que ça ne concerne que la fin du monde, ça concerne aussi l'heure de la mort. Eh bien, cette étape-là, c'est celle où Dieu va s'expliquer. Il s'explique en toute vérité, en toute lumière. Et là, tout prend sens. Il apparaît à travers son humanité sainte. Et il apparaît avec ses stigmates. Ce qui veut dire que quand on voit le Christ, on voit un être pantelant, qui ne s'est pas remis de sa passion, de trahison qu'il a subie, donc qui est comme nous, qui a souffert les mêmes choses. Et c'est très important qu'il apparaisse comme cela. Parce que lorsque la maman, qui a perdu son enfant sur terre, alors qu'elle sait parfaitement que Dieu Tout-Puissant aurait pu le guérir, lorsque la maman arrive face au Christ pleine de reproches, de révolte, eh bien, le Christ a intérêt d'avoir des bons arguments pour s'expliquer, pour lui expliquer pourquoi il a permis une telle chose, alors qu'il pouvait l'empêcher. Il vient donc avec son enfant à côté de lui, qui est là, et qui dit « Maman, regarde, c'était pour cela, c'était pour nous façonner le cœur. » Cette maman a encore une révolte, eh bien le Christ lui montre qu'il a pris sur lui une partie de son péché quand elle s'est révoltée. Il reconnaît qu'il en est responsable. C'est l'un des mystères les plus profonds de la théologie catholique. Quand Jésus vient sur terre, lui qui est Dieu fait homme, qui n'a donc aucun péché, et qui se fait baptiser par Jean-Baptiste du baptême pour le pardon des péchés. Quand le livre d'Isaïe dit « Il a pris sur lui notre péché », eh bien, l'une des significations de ce mystère veut dire que Dieu, réellement, à l'heure de la mort, reconnaît qu'il a une part de responsabilité dans tout ce qui nous est arrivé et qui a provoqué parfois nos péchés, notre révolte, etc. Tout cela pour dire que le Christ apparaît en pleine lumière, tout humble et tout amour, en toute vérité. Alors évidemment, à ce moment-là, tout devient clair. On comprend pourquoi il s'est caché sur terre. On comprend pourquoi, à tel moment, on a prié et qu'il n'y a pas eu de réponse. On comprend notre propre cœur, parce qu'à la lumière de la pureté du cœur du Christ, d'où sort le sang et l'eau, on voit à quel point on est des pauvres pécheurs, pleins de dureté, de manque d'amour. On comprend aussi, quand on s'est cru un bon chrétien, à quel point on est dans l'illusion, que nos vertus, nos petites fidélités, ne sont rien en comparaison de ces vertus-là du Christ, cette toute humilité et cet amour immense. On comprend aussi ce qui est demandé pour un jour voir Dieu face à face, à savoir devenir tout humble et tout amour. Cette 11e heure de la vie dont parle la parabole, Jésus nous invite donc tous, qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, à venir travailler à sa vigne. Ce n'est pas après la mort que ça se passe. Ça se passe à l'heure de la mort, dans ce passage entre cette vie et l'autre. Ce passage, d'ailleurs, il est intéressant de voir qu'on en a depuis quelque temps sans doute une approche philosophique grâce aux expériences proches de la mort. Donc des personnes qui ont eu des arrêts cardiaques et qui confirment qu'elles voient cet être de lumière, plein d'amour et de vérité, accompagné de proches décédés. Sans doute que les NDE sont une sorte de planche de salut, d'aide, en ce monde qui devient de plus en plus athée, et donc où les gens sont de plus en plus frappés d'envie de désespoir et donc de suicide. Comme je l'ai dit, Dieu ne veut pas qu'on pousse, si possible, nos désespoirs jusqu'au suicide. Il dit bien « si possible » au risque de scandaliser, mais on voit bien qu'il y a des êtres qui sont complètement pris par des souffrances terribles et qui n'ont que ça comme perspective. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus elle-même, après être passée par sa nuit de l'esprit, disait « Je comprends ceux qui sont tentés de suicide ». Il faut être passé à un moment donné par le désespoir total pour comprendre que la terre peut être pour certains le plus grand purgatoire qu'on puisse imaginer. Et évidemment, dans l'un des contes, je montrerai que la théorie de jadis qui disait que les suicidés étaient obligatoirement damnés est absolument théologiquement aberrante. Pour eux, à l'heure de la mort, possibilité de se convertir, même s'ils reconnaissent qu'ils ont fait une grave erreur. À l'heure de la mort, le Christ veut que nous choisissions en toute liberté soit de l'aimer tout entier, de l'épouser un jour, soit au contraire de le rejeter. Il ne peut pas y avoir de mariage forcé. Et d'ailleurs, les conditions canoniques qui font un mariage catholique peuvent être appliquées à ce moment-là. Il faut connaître le cœur de l'époux, et c'est ce que réalise Jésus en apparaissant dans sa gloire avec les saints et les anges. Et il faut avoir la possibilité de dire non, si on le veut. Et bien c'est pourquoi saint Paul, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, dit bien qu'il faut être confronté à un autre être de lumière, un être dont la lumière n'est pas du tout la même, à savoir Lucifer, l'ange révolté. Il doit venir avant la fin. Et saint Paul dit, vous vous rappelez, frères, que je vous avais dit cela quand j'étais parmi vous. On applique habituellement ce texte au dernier antéchrist qui viendra sur terre vers la fin du monde, et on a raison. Mais cela s'applique aussi à la fin du monde individuel de chacun, donc à l'heure de la mort. Lucifer vient, comme il avait fait à Adam et Ève, présenter son propre monde, à savoir ce qu'on appelle en théologie catholique l'enfer, et qu'il va présenter comme le paradis. Son propre monde, il est fondé sur la liberté. On fait ce qu'on veut, quand on veut. On choisit soi-même le bien et le mal. Et on refuse ce Jésus-Christ, ce Dieu soi-disant d'amour, qui en fait, d'après Lucifer, n'a qu'un seul intérêt, nous écraser, nous dominer. En enfer, qui est sans doute le même lieu physique après la résurrection que le paradis, avec les merveilles, la seule différence, c'est qu'on est libre parce qu'on n'aime personne si ce n'est soi. On est donc indépendant. Quand Lucifer apparaît, on fera pratiquement tous l'expérience d'une chose terrible, à savoir qu'on est très intéressé par sa proposition. En fait, tout l'égoïsme qu'on a acquis durant notre vie terrestre est attiré par Lucifer. Et toute la générosité, au contraire, qu'on a eue, croyant ou non, durant notre vie terrestre, est attirée par Jésus-Christ. Il y a un combat en nous à ce moment-là. Mais c'est un combat qui va être en pleine liberté. Fini les névroses de la terre, fini la violence des autres, fini les angoisses qui fait qu'on pourrait choisir porté par une pulsion. Non, là, quand on choisit, on le fait en une absolue liberté, ça veut dire avec deux choses, une lucidité parfaite sur ce qu'est l'enfer et ce qu'est le paradis, et deuxièmement, une parfaite maîtrise de soi, au point que l'homme qui choisirait de suivre Lucifer, à ce moment-là, alors que le Christ est là, accompagné de sa maman à cet homme, de son papa, s'ils sont au paradis, qui l'invite à demander pardon pour ses péchés, qui lui explique qu'il y a pardon, qui lui raconte qu'en enfer, en fait, on est malheureux, on est seul, on brûle d'angoisse, on a les dents qui grincent tellement on est plein de rage. Eh bien, si cet homme choisit malgré tout de suivre Lucifer, il ne reviendra jamais en arrière, parce que son choix est parfaitement lucide et libre. Donc, éternellement, il le reprend, il le repose en proclamant « Mais je suis heureux, fichez-moi la paix !» C'est à tel point libre, d'ailleurs, que si le choix de l'enfer a été fait par une personne, eh bien, les gens du paradis se réjouissent pour la personne, parce qu'ils voient bien que c'est son choix, qu'elle n'a pas été forcée. Eh bien, si c'est son bonheur, qu'elle aille dans son bonheur. Un dogme de l'Église dit qu'on n'est jamais tenté au-delà de nos forces. Ce dogme s'applique à ce moment-là. Ça veut dire qu'en fait, Lucifer et sa lumière, Jésus ne permettra pas qu'il dépasse la mesure de nos forces et donc il nous aidera par son apparition, là, de telle façon que c'est en lui, entre guillemets, crachant au visage, qu'on choisit l'enfer. Il faut en être capable. Et sans doute, beaucoup de gens le choisissent parce qu'il y a plus d'égoïsme qu'on ne pense sur Terre. L'enfer, tel que je le décris là, n'est pas du tout rassurant. Avant, on pensait que Dieu prenait les méchants par la peau des fesses et les mettait dans un four pour les punir. Là, c'est beaucoup plus terrible. C'est soi-même, par sa propre perversité, qui choisissons librement la révolte contre Dieu. Si au contraire, on choisit le Christ, alors on se met à l'aimer de tout son cœur. Il n'y a pas de plus grand amour. On l'aime tout entier ou on le déteste tout entier. D'où l'importance de la vie terrestre, de la vivre jusqu'au bout, parce que c'est le seul endroit où, privé de la vision de Dieu, notre désir de l'aimer grandit. Donc le cœur peut être tout petit, on peut être très grand, si on a un grand désir d'aimer. Là, face au Christ, on l'aime de tout son cœur, au point qu'il n'y aura plus croissance de l'amour. Tous les pères de l'Église l'ont dit. Par contre, il y a une autre qualité qu'on n'a pas forcément entièrement développée quand on est face au Christ. C'est la deuxième, l'humilité totale, la kénose. Je veux dire par là qu'un homme fier, qui à l'heure de la mort découvre ses péchés, choisit quand même le Christ, eh bien pour qu'il devienne tout petit dans son cœur, il a encore du travail. Et ce sont les autres purgatoires qui suivent l'apparition du Christ. Et je vais en parler maintenant. Lorsqu'un homme choisit le Christ, il l'aime de tout son cœur et il arrive qu'il dise « Tu sais Seigneur, je t'aime tellement. Je vois très bien ce que j'ai fait de mal dans ma vie, à quel point j'ai été dur avec les autres. Eh bien je veux, par dignité, parce que je t'aime, tout payer. Et même payer le double pour chacune des fautes que j'ai faites. Et deuxièmement, je veux devenir digne de toi. Parce que je t'aime et je ne te verrai pas face à face dans ta divinité avant d'être digne de toi. » On a cette attitude-là dans l'Évangile C'est un publicain qui réagit comme cela, qui dit à Jésus, après que Jésus l'ait converti, « Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je paierai le quintuple en ce que j'ai détourné comme somme d'argent. » Et Jésus est plein d'admiration et il dit « Le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. » Eh bien, c'est l'attitude des hommes dont le cœur est fier et qui se mettent à aimer Dieu à l'heure de la mort. Eh bien, ceux-là devront passer par d'autres purgatoires, des purgatoires qui ont été décrits par sainte Catherine de Gênes et qui sont au nombre de 3. Mais avant de les développer, je voudrais montrer qu'il y a certaines personnes, et pas celles qu'on croit, qui ne passent pas par ce purgatoire-là. Ce sont les personnes qui n'ont aucune illusion sur elles-mêmes et qui arrivent à l'heure de la mort, croyant ou non, sans aucune illusion sur leur dignité. Alors ça pourrait être une théologie dangereuse qui pourrait donner l'envie à certains de vivre n'importe comment. Elle est très risquée, mais comme tout l'évangile, c'est une verticalité et de chaque côté il y a un précipice où on peut tomber dans l'erreur. Mais quand Jésus dit que les prostituées et les pécheurs devancent les prêtres du temple dans le royaume des cieux, c'est une réalité. Et pourquoi cela? Parce qu'une prostituée, elle sait qu'elle ne vaut rien dans ce sens qu'elle a vendu pour de l'argent ce qu'il y a de plus sacré dans une femme et qu'elle offre normalement par l'amour. Donc quand elle arrive de l'autre côté, normalement, elle ne va pas dire au Seigneur, « Tu sais, je vais devenir digne de toi. » Elle va dire tout simplement au Seigneur, « Tu sais, je ne serai jamais digne de toi. C'est même pas la peine de chercher, tu me connais. Je me suis prostituée. Je suis persuadée que si je retournais sur terre, je recommencerais. » Eh bien, cette personne-là, comme elle est très humble déjà, et souvent tout humble, eh bien, elle entre directement au ciel. Alors évidemment, certains théologiens ou certains musulmans disent mais ça veut dire que ce que dit Jésus, c'est une invitation à la prostitution. Bien sûr que non, répond saint Paul. Il a un passage en disant « Si nous avons été délivrés du péché, est-ce qu'il faut se remettre à pécher ?» Mais non, il suffit simplement d'être lucide sur soi. On a suffisamment de regards, de confessions à faire sur ses propres péchés pour en inventer d'autres afin de se découvrir pécheur. Très peu d'hommes sont chastes. J'avais dit une fois à ma sœur une chose qui l'avait profondément scandalisée. Je lui disais, face au Christ, celui qui a eu une pensée d'impureté, eh bien, est aussi sale que celui qui a commis l'adultère. Et elle me disait, mais non, d'un côté, il n'y a qu'une petite pensée, on a lutté contre elle, et de l'autre, il y a un acte de trahison de sa femme. Elle a raison, ma sœur, en ce qui concerne la terre. Sur terre, l'adultère commis est bien plus grave qu'une pensée d'adultère. Mais là, c'est autre chose. Je parle de la présence face au Christ. Eh bien, le Christ, il le dit lui-même. Celui qui a eu une pensée impure pour désirer une femme a déjà commis l'adultère avec elle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se désespérer. Non, ça veut dire que si on est lucide sur son propre péché, on n'a pas besoin de péché pour savoir qu'on n'est rien. Donc, arriver devant le Christ en disant « Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Ceux qui se croient plus dignes que les autres, eh bien, souvent, ils peuvent le déduire. Bien, il leur faudra sans doute un temps de purgatoire après l'apparition du Christ. Et ce n'est pas une honte. Il n'y a pas plus dur que d'être sans illusion sur soi. Alors en quoi consistent les 3 purgatoires qui suivent le jugement dernier, quand le Christ nous a dit « Tu m'aimes, un jour tu verras face à face ma divinité et la Trinité. » Eh bien la personne se sépare volontairement du Christ et du ciel qui lui est apparu à cette heure-là. Elle se met volontairement dans un lieu désert pour régler les 2 choses qu'elle veut régler. Donc, comme je le disais, devenir digne du Christ. Et deuxièmement, payer pour tout le mal qu'elle a commis, selon cette parole de l'Écriture. Hâte-toi de te réconcilier avec ton frère en chemin, tant que tu es en chemin sur terre, de peur que de l'autre côté. On ne te livre au juge et le juge au bourreau. Et là, en vérité, tu ne sortiras pas avant d'avoir réglé jusqu'au dernier sou. En réalité, la personne, elle veut régler jusqu'au dernier sou. Elle est volontaire parce qu'elle aime. Alors elle se retrouve isolée dans un premier purgatoire qui est sans doute un lieu magnifique. Un coin de la terre prévu pour cela. Un coin de la terre, je veux dire, de l'autre monde prévu pour cela. Mais où elle est seule? Alors au début, après le temps de plaisir, de découverte des merveilles physiques, ça veut dire qu'on voit, on entend apparemment quand on est un mort, on garde son psychisme, décrivent les expériences proches de la mort. Après un temps de découverte, vient le souvenir lancinant de la présence de Dieu qu'on n'avait pas vue. Le désert. Souvent, les gens qui sont des spirituels disent « Je suis attiré par l'expérience du désert ». Moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Et je me suis rendu compte que l'expérience du désert, elle est magnifique, disons, 2 jours. Mais au bout de 2 jours, c'est l'horreur. Les souvenirs de la télé reviennent. L'imagination se met à se débrider. Et puis, ils sont magnifiques, les montagnes. Elles sont magnifiques, les montagnes. Ils sont magnifiques, les beaux arbres. Mais quel ennui! Eh bien, c'est ça, le purgatoire. Sauf que, on n'a rien pour s'occuper. Le souvenir de la présence amoureuse de celui à qui on a tout donné et qu'on a vu à l'heure de la mort, il est là tout le temps. Donc très vite, ce premier purgatoire, qu'on appelle le purgatoire des fiers, devient un véritable lieu de souffrance, terrible. Le Cantique des Cantiques le décrit en disant « Sur ma couche la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Alors je suis sorti partout dans la ville et j'ai cherché celui que mon cœur aime, mais je ne l'ai pas trouvé. Il n'y a pas de plus grande souffrance, disaient les anciens. Parce que rien ne vient la distraire. En réalité, on sait maintenant qu'il peut y avoir souffrance aussi forte sur la terre. La personne qui en vient au suicide, elle connaît la nuit de l'esprit totale et donc la souffrance la plus grande qu'on puisse imaginer, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre. Eh bien la personne, au bout d'un temps qui peut lui paraître extrêmement long, un temps psychologique, c'est pas un temps terrestre, peut-être qu'en temps terrestre ça dure quelques heures, mais en temps psychologique ça lui paraît des années, se désespère. Parce que d'abord elle n'arrive à rien payer de ce qu'elle voudrait payer. Et deuxièmement, elle n'arrive pas du tout à changer et à devenir digne du Christ qu'elle a vu. Donc là, c'est décrit ce purgatoire-là de façon très précise dans une parabole de Jésus avec Lazare et le riche. Le riche qui est dans un lieu et qui voit de loin Lazare et lui demande un peu d'eau pour toucher sa langue. L'eau, c'est la présence de ceux qu'il aime et qu'il a vu à l'heure de la mort. Mais il ne peut pas. Abraham lui dit, il y a une distance entre vous et nous. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y passe. Il faut que son cœur devienne tout humble. Il ne peut pas y échapper. Alors quelquefois, quand c'est trop dur, il y a tout de même des visites de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge est la dame de ces purgatoires-là. Elle vient redonner du courage un peu. Mais il n'y a rien à faire. Dans ce purgatoire-là, purgatoire de la douleur, il faut connaître une expérience qu'on appelle le désespoir et qu'on appelle en théologie la nuit de l'esprit. Ça veut dire que la personne se décourage complètement. Elle n'y arrivera jamais. Elle a souvent des pensées de disparition. Puis les choses se calment. Et alors elle va rentrer dans le troisième purgatoire, qui en fait est un troisième état d'âme, toujours dans le même lieu, qu'on appelle le parvis du ciel, que saint Jean de la Croix appelait la septième demeure, et qu'il décrit justement sur terre après, dans la vie religieuse, une sixième demeure qui correspond exactement à cela, qui est une nuit de l'esprit totale. Dans la septième demeure, la personne, elle a renoncé à être digne. Elle sait qu'elle ne pourra jamais rien payer de tout ce qu'elle a commis comme mal sur terre et elle dit simplement « Seigneur, dis seulement une parole et je serai guérie parce que je ne suis pas digne de te recevoir. » Elle est devenue, sans s'en rendre compte, tout humble. Et donc ça y est, elle peut rentrer au ciel. Donc le ciel s'ouvre à un moment donné et le Christ paraît de nouveau accompagné des saints et des anges, mais avec cette fois un trésor bien plus grand. C'est-à-dire qu'il va ouvrir son cœur. De chair, son humanité va comme disparaître et va apparaître une chose qu'on ne peut pas décrire, où les mots se taisent, à savoir sa divinité, sa vie trinitaire, vue face à face, sans aucun intermédiaire créé. Quand on voit déjà le troisième ciel qu'a vu saint Paul, et il dit c'est comme le paradis, eh bien le septième ciel, qui est la vision de l'infini, qui chaque seconde se renouvelle, on ne peut pas l'imaginer. Dans le septième ciel, on dit qu'on est bien heureux. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun désir dans ce sens que, éternellement, Dieu renouvelle sa beauté devant notre âme. Au point qu'on ne s'ennuie jamais, parce qu'on n'a jamais fait le tour de Dieu. C'est une salle de noces, véritablement. On fait souvent remarquer, quand on discute avec des musulmans, que la seule façon de comprendre un paradis éternel, c'est la vision de Dieu. Si le paradis éternel était simplement un jardin comme le croyaient les Égyptiens anciens ou les musulmans parfois, un jardin de merveilles où on vit harmonieusement les uns avec les autres, eh bien ce serait en fait très vite un véritable enfer. Pourquoi ? Parce que même en imaginant que Dieu ait mis dans l'autre monde tout ce qui est passé sur terre, donc les milliards d'espèces animales qui ont vécu, dont on ne peut même pas imaginer la diversité, il n'en reste presque plus sur terre actuellement. Des planètes uniques, des mondes divers, des choses dont on n'a pas fini de faire le tour. Eh bien, au bout d'un certain temps, ça deviendrait lassant. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un être humain qu'un autre être humain, finalement. Ça remplit le cœur, mais pas entièrement. On le sait bien, imaginons qu'on vive sur Terre 1000 ans. Eh bien, au bout d'un certain temps, tous les plaisirs usent. Tandis que si on voit Dieu face à face, qui lui est infini, donc qui est à la taille de la durée de la vie éternelle, alors on comprend ce que Dieu a prévu pour nous. Mais évidemment, on ne peut pas le voir face à face, comme je le disais, sans l'aimer, donc l'épouser, comme dans un mariage d'amour, et deuxièmement, sans avoir ce cœur tout humble. Alors il me reste à raconter un dernier petit point. C'est qu'en fait, je suis passé du premier purgatoire, la terre, au troisième, l'apparition du Christ. Puis j'ai décrit le quatrième, donc que j'appelle le purgatoire des fiers, le cinquième, la douleur, le sixième, le parvis du ciel, et enfin le septième ciel qui n'est pas un purgatoire, qui est la vision béatifique. Et il manque le deuxième ciel, le second purgatoire. Eh bien en fait, il est décrit dans la Bible, de manière très précise à travers une parabole, encore une fois. Il s'agit de l'entrée du peuple juif, du peuple hébreu, pardon, du peuple juif c'est beaucoup plus tard, le peuple hébreu donc, avec Moïse dans la terre promise. Ils sortent de l'Égypte. L'Égypte, c'est le symbole de cette vie. On aime cette vie, on y est attaché, on y a des oignons. Ils passent dans le désert où leur apparaît, sous forme d'une colonne de lumière, la présence de Dieu. Là, le jour, c'est une colonne de fumée, la nuit, c'est une colonne de lumière, et elle guide leurs pas. Normalement, ils doivent franchir ce désert, et ça dure quelques jours. Et Dieu leur dit, franchissez maintenant la rivière, le Jourdain, et la terre promise, vous l'aurez tout de suite, entièrement. Et eux, ils refusent de franchir cette rivière, ils ont peur. Deux choses les retiennent. Premièrement, on leur a dit que sur la terre promise, il y avait des géants, donc ça leur fait peur. Et deuxièmement, ils regrettent les oignons d'Égypte, donc la vie terrestre, ils aimeraient bien y retourner. Eh bien, Dieu se met en colère contre eux et leur dit, puisque c'est comme cela, eh bien, vous resterez au désert 40 ans et vous y mourrez. Eh bien, cette parabole raconte ce que c'est que le deuxième purgatoire. En fait, c'est exactement la description de ce qui se passe à l'heure de la mort. À l'heure de la mort, on sort de son corps. et on doit franchir un passage entre ce monde et l'autre, souvent symbolisé par les gens qui approchent la mort par un tunnel de lumière, au bout duquel il y a un jardin merveilleux et une rivière. Ils savent que s'ils franchissent cette espèce de rivière, symbolique ou peut-être réelle, ils ne reviendront jamais sur Terre. Marthe Robin disait que ce passage-là, donc entre ce monde et l'autre, pouvait durer plusieurs jours. Elle le disait sans arrêt à ceux qui venaient la visiter. Une tradition ancienne dans l'Église disait 3 jours, et c'est pour ça que les morts, on avait l'habitude de les veiller 3 jours. Parce qu'ils étaient là, sans doute, encore sur Terre parfois, pas encore dans l'autre monde. Eh bien, il arrive qu'une personne, parce qu'elle est trop attachée à cette terre, par exemple, ou alors parce que, ayant commis de gros péchés, elle a peur d'affronter l'être de lumière et le jugement dernier, elle se dit qu'elle va être condamnée, que ça va être un regard insupportable, eh bien, il arrive qu'une personne refuse de passer dans l'autre monde. Eh bien, dans ce cas-là, le Christ s'efface. Il ne vient pas la chercher. Il la laisse sur terre, dans un lieu qu'on appelle le Shéol, autrement dit l'Hadès, ce qui se traduit en français par la mort, le passage de la mort. Et elle va y rester des années, quelquefois effectivement 40 ans, quelquefois des siècles, en tout cas jusqu'à ce qu'elle y meure. Spirituellement, ça veut dire jusqu'à ce que son cœur soit brisé, qu'elle y connaisse l'expérience de la solitude et du désespoir, et qu'elle appelle un salut. Alors ça paraît cruel de la part de Dieu. En fait, non. C'est toujours la même explication. Dieu a inventé un deuxième purgatoire qui permet de sauver quelques personnes. Les personnes qui meurent, qui approchent dans l'autre monde et qui ne sont pas prêtes. Jésus, il en parle dans les Écritures quand il parle du riche. Et il dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Ce qui signifie que la personne doit d'abord complètement se décharger de tout ce qu'elle porte sur son dos, donc ses attaches à la terre, etc. Ce deuxième purgatoire, qu'on appelle le Shéol, c'est aussi le territoire des âmes errantes. Parfois, il y a des manifestations de ces âmes-là sur terre. La théologie catholique était un peu réticente à en parler, parce que ça semblait être intégré des choses venant du paganisme. En réalité, c'est attesté par la Bible. Les pères de l'Église, comme Saint Bernard, racontent des histoires où des âmes sont présentes sur terre. Donc il faut absolument l'intégrer en théologie catholique. Ce purgatoire est très important. Il permet probablement le salut de beaucoup de monde qui se serait perdu. Et c'est ce que les contes essaieront de raconter à travers certaines des histoires. Est-ce que ces 6 degrés du purgatoire sont la foi catholique ? Réponse, non, elles ne sont pas la foi catholique solennelle. Elles sont la reconstitution théologique actuelle qui me semble la plus performante, qui n'est pas tout à fait la même reconstitution que saint Thomas d'Aquin qui vivait au Moyen-Âge. Mais entre-temps, on a eu évidemment d'autres saints qui sont venus, comme sainte Catherine de Gênes, qui a décrit les 3 degrés du purgatoire mystique dont je parlais un peu plus haut. On a eu aussi l'Église qui a prononcé d'autres dogmes. Saint Thomas, par exemple, ne savait pas que Dieu proposerait son salut à tout homme sans exception, y compris aux petits-enfants morts sans baptême. Et cela, le Concile Vatican II l'a défini solennellement dans Gaudium et Spes 22.5. À savoir que nous devons tenir que Dieu proposera son salut à tout homme. Ce qui ne veut pas dire que tout homme l'acceptera. Donc la théologie a progressé grâce à toute cette série d'apports. Ça ne veut pas dire que cette théologie-là est la dernière synthèse qu'il y aura dans l'Église. Il y aura sans doute des progrès à l'avenir. Mais à l'heure actuelle, dans la recherche actuelle, c'est sans doute celle qui est la plus cohérente avec tous les dogmes et tous les écrits des grands saints, toute la tradition la plus forte. Cette théologie doit être donnée à notre temps. parce que nous sommes devenus beaucoup plus exigeants pour connaître la vérité du mystère. Nous avons besoin d'une cohérence totale de l'alpha, la Trinité, jusqu'à l'oméga. Sainte Faustine, au XXe siècle, est l'une de celles qui a vu la venue du Christ à l'heure de la mort. Elle le dit dans son journal. Elle dit « J'accompagne souvent des âmes à l'heure de la mort, alors que tout semble perdu. Et je vois qu'à ce moment-là, il leur est donné une grâce unique. Et que la plupart, alors que tout semblait perdu, se tournent vers le Christ et se mettent à l'aimer. Mais je vois aussi que, horreur, certaines se détournent de lui volontairement. Voilà, j'espère que les contes qui vont suivre, que j'essaierai de commenter par rapport aux difficultés qu'ils présentent, permettront à chacun de mieux se faire une idée de notre passage sur Terre.